Ce sont les mots les plus profonds qui aient été dits sur la prière. Jésus a prié les hommes et n'en a pas été exaucé. Pascal se réfère évidemment à l'agonie de notre Seigneur sur laquelle il médite. Et en pensant à cette supplication de Jésus à l'adresse de ses apôtres endormis, il résume tout ce drame dans ce mot admirable, Jésus a prié les hommes et n'en a pas été exaucé. Cette parole nous permet une transposition qui nous est familière, comme c'est toujours Dieu qui fait le premier pas, comme c'est toujours le don de Dieu qui suscite le nôtre, comme Dieu est toujours déjà là, et que c'est nous qui sommes absents de la prière, et donc l'exaucement de Dieu par l'homme. L'exaucement de l'homme par Dieu va de soi, puisque Dieu est l'exaucement éternel. Il est le oui sans reprise, sans mélange de noms. Car comme dit Saint Paul en Jésus, il n'y a pas de oui et de non, il n'y a que le oui. Dieu est l'exaucement éternel. Il n'y a pas besoin de s'adresser à lui pour solliciter son amour, puisqu'il est l'amour. Il n'y a pas besoin qu'il vienne à nous, puisqu'il est déjà là. C'est à nous d'aller à lui, c'est à nous de l'exaucer. C'est-à-dire de nous ouvrir à ce don qu'il est en permanence, afin qu'il se répande dans tout notre être et par nous, dans tout l'univers. Que veut dire cet exaucement de Dieu, sinon justement de faire de nous le sanctuaire de sa présence, de fermer l'anneau d'or des fiançailles éternelles, c'est-à-dire de recevoir cette vie divine, de la vivre comme la nôtre, et d'apporter aux autres infiniment plus que nous-mêmes dans ce rayonnement du Dieu qui nous habite. La prière vous est familière, elle est votre vie. Vous êtes la prière de l'Église, votre prière est apostolique comme toute votre vie. Votre prière est la prière de toute l'humanité, de toute la création, de tout l'univers. Encore est-elle appelée à aboutir à vous-même, je veux dire à faire de vous-même cette Église vivante, qui est la seule Église authentique. Le sacré, en effet, le sacré réside finalement au plus intime de nous-mêmes, car tout le sacré qui nous environne, il n'est pas là pour lui-même. Les murs de l'Église ne sont pas là pour eux-mêmes, le tabernacle n'est pas là pour lui-même, le Christ ne demeure pas dans les parois du tabernacle pour ses paroisses elles-mêmes. Finalement, tout le sacré doit s'établir en nous, et c'est à travers nous qu'il doit se révéler et se répandre. La prière peut prendre des formes innombrables, celle du psautier qui est traditionnelle et qui fait le fond de la prière liturgique. Les oraisons jaculatoires innombrables, la prière de Jésus de la tradition orientale, qui est si efficace et si miraculeuse chez ceux qui la vivent. Et cette prière informulée, finalement, qui est la prière de la vie. Et c'est en effet à cela qu'aboutissent toutes les prières. C'est que la vie elle-même devient prière. C'est que la vie n'est plus qu'une respiration de Dieu. Un espace où sa vie se répand, une transparence où sa lumière se communique. Et dans un sens, on peut dire que toute prière authentique aboutit à cette prière sur la vie, en nous et dans les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous prendre un exemple tout à fait simple au cœur de la vie humaine. J'ai rencontré, il y a longtemps, une dame qui était à l'époque dans la soixantaine, et il était paralysé depuis 39 ans, totalement paralysé, ne pouvant porter ses mains à sa bouche, ne pouvant se retourner dans son lit, étant totalement dépendante des autres, et depuis aveugle depuis 30 ans. Il y avait dans cette personne de vision que son intelligence, le regard intérieur de sa pensée, le rayonnement de ce secret caché au plus profond d'elle-même. Et je m'émerveillais de voir cette femme si dépendante de tout, et depuis si longtemps, garder une sérénité. Parfois, elle ne se plaignait jamais. Il semblait qu'elle fût totalement accoutumée à ses infirmités. Quand un jour, elle me raconta sa merveilleuse histoire, elle avait été frappée d'une attaque de poliomyélite au moment où elle avait 19 ou 20 ans. Et il était presque fiancé à ce moment avec un jeune homme qui allait manifester toute la grandeur de son amour. En ne la quittant pas, il ne la quitta pas au moment de cette infortune. Au contraire, il se fit son chevalier servant, il acheta une voiture pour la faire sortir. Il lui rendit tous les services dont il était capable dans cette situation. Et au bout de 9 ans, comme étant aveugle, il l'épousa. Il épousa donc ce bloc inerte. Pourquoi? Évidemment parce qu'il avait rencontré son âme, parce qu'il avait deviné le secret le plus profond de son être, parce que cette connaissance profonde suffisait à le combler, parce qu'il pouvait échanger avec elle l'infini en personne. Et bien que cet homme dut mourir longtemps avant elle, et subitement, toute sa vie était paralysée par cet immense amour qui lui avait révélé les profondeurs de son âme. Elle savait désormais qu'il y avait en elle de quoi remplir l'univers, qu'il y avait en elle une valeur infinie qui n'était pas elle, et qu'un homme l'avait aimée pour cela. Qu'un homme délivré de la chair, totalement libéré de lui-même, avait communié à la présence divine qui était cachée au fond de son cœur. Cette révélation l'amena à une sorte de contemplation, de vie intérieure tout à fait spontanée. Elle n'avait qu'à entrer dans ce sanctuaire qui lui avait été révélé par cet immense amour pour que sa vie fût un consentement. Tout cela n'était pas dit dans des mots, tout cela n'était pas élaboré en système, mais tout cela était vécu à cette profondeur que révélait précisément sa sérénité, qui ne se démodait jamais, malgré toutes les dépendances auxquelles livrait cet organisme si durement frappé. Il y a donc finalement un univers sacré qui est au plus intime de nous-mêmes, sur lequel nous pouvons faire raison, comme sur l'univers sacré qui est contenu dans le cœur des autres. Vous voyez la vie avec toutes ses fonctions économiques, politiques, voire ecclésiastiques. Vous voyez des hommes chargés de responsabilités. Vous les voyez pleins de talents, s'exprimant avec une intelligence magnifique. Et vous voyez des êtres qui ont un pouvoir énorme, comme le président des États-Unis, qui peut décider presque à lui seul du sort de son immense nation. Et qu'est-ce que tout cela? Ce sont des fonctions qui déplacent des choses, qui mettent en mouvement des rouages. Mais tout cela n'est rien s'il n'y a pas dans l'être humain cette profondeur, s'il n'y a pas ce sanctuaire intérieur, s'il n'y a pas cet espace illimité, s'il n'y a pas ce trésor qui se révèle dans cette sorte d'oraison que l'homme fait sur lui-même. Seul en face de moi-même, je ne suis pas seul. Tout le ciel est au-dedans de moi-même. Je ne puis m'approcher de moi-même que sur la pointe des pieds, comme disait un poète, précisément parce que je ne suis pas seul. Tout le secret est au-dedans de nous. Et la charité fraternelle se nourrit précisément de ce secret. Faire oraison sur la vie, faire oraison sur les autres, c'est le plus sûr moyen. Sans violer leur secret, d'abord de respecter leur vocation divine, et c'est le meilleur moyen. Sans rien faire que d'exister en état d'agenouillement intérieur, c'est le meilleur moyen de susciter en eux cette vie divine dont ils sont les partenaires et qui est leur grandeur et leur joie. Il faut finalement que la prière aboutisse à ce sanctuaire que nous sommes pour construire cette église vivante qui a son centre au plus intime de nous-mêmes. L'église est une société sacrement, c'est une société qui a ses assises dans la solitude de chacun. Et c'est dans cette solitude de chacun qui rayonne sur tout l'univers, car nous avons tous les mêmes racines, nous nous touchons tous au plus intime de nous-mêmes. Nous sommes vraiment un dans cette présence de Dieu, dont notre vie jaillit et en qui elle demeure. L'unité du genre humain, elle est rigoureusement personnelle. Je veux dire qu'elle est axée précisément sur cette respiration de Dieu qui fait de nous tous ensemble une seule personne en Jésus. Notre prière liturgique, notre prière eucharistique, elle débouche finalement sur cette oraison, sur la vie en nous et dans les autres. Pour nous rendre sensibles l'expérience du secret, au plus intime de l'âme, Nietzsche a changé vitupéré contre le mépris de la vie qui serait, d'après lui, le propre du christianisme. C'est le contraire. Le christianisme identifie le secret avec la vie. Tout l'au-delà est au-dedans. Et toutes ces notions de personnalité, de dignité, d'immortalité, sont reliés par une intime circoncision. Il y a de personnalité, il y a de dignité, il y a d'immortalité, parce que précisément, le secret a finalement son siège au plus intime de nous. Il s'agit donc d'être à l'écoute de ce secret dans une prière qui est une continuelle attention d'amour aux profondeurs divines de la vie. Les gens parlent, s'expriment, agissent, prennent des décisions, écrivent des livres, organisent des congrès, toutes choses qui ont leur valeur et éventuellement leur nécessité. Mais finalement, tout cela n'est qu'un moyen à l'égard de cette fin qui est le règne de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Agis, disait Kant magnifiquement, agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi et dans les autres comme une fin et jamais comme un moyen. Mais la fin dernière est ici, la fin dernière est en nous. Et le jugement dernier aussi. Alors, le jugement dernier, c'est cela. La valeur d'une vie, c'est cette transmutation, cette transformation de l'être en sacré. Que de paroles, que de discours, que d'entreprises vaines, toute cette agitation sous couleur de réforme, de rénovation, de retour aux sources, toutes ces contestations, comme tout ça est vain. Si le sacré est vraiment au-dedans de nous, le seul témoignage que nous puissions lui rendre, c'est justement de le vivre, d'établir entre nous-mêmes et nous-mêmes, je veux dire entre nous et le sanctuaire que nous sommes, cette distance infinie de respect et de vénération. Entrer dans notre âme comme dans le sanctuaire de la divinité. Nous traiter nous-mêmes comme l'Église vivante et rendre ce témoignage. Que toute la vie en Dieu se transfigure, qu'elle se rassérène, qu'elle se libère, qu'elle s'immortalise. Qu'il a déjà vaincu la mort et qu'elle appartient déjà au monde de la résurrection. Alors, il y a une expérience de l'immortalité, justement, au cœur de la vie spirituelle, du fait que la vie, dont l'esprit, la vie dont l'esprit est une vie qui se porte elle-même, tant que l'homme n'est pas devenu l'origine de lui-même, qu'il n'est pas devenu le créateur de cette dimension infinie, qui l'ouvre à Dieu et l'enracine en Dieu, il est porté par les forces aveugles qui sont à l'œuvre dans l'univers. Il ne se porte pas lui-même. Il est donc livré à la mort. Il est déjà mort, ou il est encore mort. L'homme qui vit de l'esprit, l'homme qui vit de Dieu, l'homme qui respire la présence unique, il échappe à ses déterminismes. Toutes les forces cosmiques qui sont en lui se transfigurent, elles s'ordonnent, elles deviennent musique de tumulte qu'elles étaient. Et cet homme ne dépend plus de l'univers, davantage. Il informe l'univers, il le transfigure, il l'ordonne, il concourt à sa libération. Il communique précisément cet affranchissement intérieur auquel il s'applique. Il entre enfin dans le sillage du second Adam, qui est l'origine d'une création nouvelle. On ne peut pas parler ni de personnalité, ni de dignité, ni de responsabilité, ni d'immortalité, d'une manière efficace, si l'on n'est pas entré dans ce secret au plus intime de soi, si l'on n'en vit pas, si on n'est pas devenu justement un universel, le seul universel, c'est cela. C'est une personnalité. Je veux dire, c'est un être humain qui n'est plus limité à ses déterminismes cosmiques et qui devient pour les autres un ferment de libération. Et vous remarquez que ce retour à la vie intérieure, je veux dire, cette découverte du secret au plus intime de nous. Et tout cela répond à des pressentiments qui sont diffus dans l'humanité, les sens que les hommes ont toujours attachés aux cadavres, la vénération pour les morts, le refus d'admettre que tout soit terminé au cadavre, cet attente d'autre chose, ce sens vague de la dignité, cette aspiration vers l'amour, et même ces chants d'amour qui sont parfois si vulgaires, essaient quand même d'évoquer un mystère. Essayer d'évoquer quelque chose qui puisse en paralyser tout l'être, qui puisse être un bonheur définitif. Il y a dans le christianisme un réalisme infini, parce que justement, tout se passe ici, maintenant. C'est ici, maintenant, que se situe l'éternité, c'est ici, maintenant, que Dieu se rencontre et se révèle, c'est ici, maintenant, que la liberté se réalise dans un choix original qui fait de nous, d'une certaine manière, les créateurs de nous-mêmes. Il y a une immense aventure dans laquelle Dieu est engagé, et avec Dieu toute la création et tout l'univers, et qui s'accomplit au plus intime de nous-mêmes. Il faut que nous nourrissions nous le sens de la grandeur. Être homme, c'est quelque chose de prodigieux. How beautiful mankind is, disait Shakespeare, combien belle est l'humanité. Il faut que nous ayons cette sainte fierté de notre vocation d'homme, vocation révélée par Jésus, qui donne la pleine mesure de l'âme et qui nous appelle à grandir à sa taille. Si donc il est vrai que c'est notre vie qui est tout notre apostolat, si c'est notre vie et qui est sous la mission de Jésus, et si nous avons été témoignés de lui que par notre vie, mais rien n'est plus grand et il n'y a pas de témoignage et qui puisse dépasser celui-là. Retenons en tout cas cette oraison sur la vie, qui est l'âme de la charité. Regardez les autres avec ce regard, qui cherche en eux, avec des yeux baissés bien sûr, du respect et de l'amour, qui cherche en eux cet infini dont ils sont tous et chacun les porteurs. Et laisser dans toutes nos relations humaines, laisser la possibilité de se devenir, laisser ouvert cet espace que les autres sentent, que nous ne les limitons pas. et que nous les traitons vraiment comme le sanctuaire de la divinité. Ah, comme l'Église prend un sens passionnant, quand nous la voyons justement dans son dynamisme sacramentel, dans sa transparence à la présence de Jésus, comme nous la voyons se réaliser avec ces pierres vivantes que nous sommes. Sachant que tout le reste, tout le symbolisme extérieur, n'est pas extérieur précisément, parce qu'il est en relation avec les couches pliées du profond de notre être. Le monde commence la création. C'est un nouveau départ à chaque battement de notre cœur. Et c'est aujourd'hui le premier jour. C'est chaque jour le premier jour. Nous ne sommes pas liés par notre passé. Nous n'avons pas à rouler le rocher de Sisyphe d'une manière désespérée. Nous savons qu'un seul mouvement de notre cœur nous remet en face du Dieu vivant et qu'avec lui, la vie est toute neuve, puisque elle est chaque fois que nous approchons de lui une nouvelle naissance. Je suis un autre, en effet, quoi de plus certains, je est un autre. Ce qui est plus intime, je, ce qui est plus nous-mêmes, c'est lui. Il n'y a donc pas de proximité plus radicale que celle-là. Nous ne pouvons jamais aller jusqu'à nous sans aller jusqu'à lui. Et notre vie, c'est cette symbiose, cette communion permanente avec lui. Il vaut la peine d'être engagé dans cette aventure et de donner sa vie pour ce témoignage, puisque ce témoignage, c'est vivre et rien d'autre. Je suis un autre. En qui nous avons les mêmes racines et qui nous permet de rassembler tous les vivants et tous les morts, tous ceux qui sont proches et lointains, tous sont au-dedans de nous, ou nous au-dedans de nous, ce qui revient au même. Justement parce que il n'y a qu'un seul point focal, ce seul point autour duquel gravite cette circonférence immense qui comprend toute histoire et tout l'univers. Mais en lui, tout est présent, et tous les murs de séparation s'écroulent. Et toutes les absences sont récupérées. Il n'y a plus de vivants ou de morts, puisque tous sont un. Dans le cœur de Dieu qui bat dans le nôtre. Je termine par une histoire, comme j'ai commencé par une histoire. Je vous raconte l'histoire du géant égoïste. Il y avait une fois un géant qui habitait un château à la dimension de sa taille, et autour du château, il y avait un parc à la dimension du château. Et le gens vivaient seul dans son château et dans son parc, dans une solitude gigantesque. Ne pouvant plus supporter cette solitude, un beau jour, il chaussa ses bottes de ses lieux, et il s'en allait trouver un confrère en gigantisme, aussi grand que lui-même. Et en quelques enjambées, il fut rendu auprès de lui et il commença à lui faire la confidence de ses chagrins. Et comme la confidence d'un géant est gigantesque comme lui, cette confidence dura 7 ans. Pendant 7 ans, le géant déversa dans le cœur de son ami le géant tous les chagrins de son cœur. Au bout de 7 ans, il termina sa confidence, il chaussa ses bottes de cellier et en quelques enjambées, il se rendit chez lui. Mais 7 ans, vous le savez, comme le temps des enfants, n'a pas de commune mesure avec le nôtre, comme il vaut 10 fois plus que le nôtre et davantage encore, comme il se passe en 1 minute chez eux autant d'événements que chez nous dans 1 heure. Les enfants avaient occupé les lieux, ils avaient niché dans les arbres avec les oiseaux, ils s'étaient enhardis jusqu'à pénétrer dans le château, à la faveur des brèches qui s'étaient creusées dans les murs. Et voilà que le géant rentre chez lui, il voit toute cette marmaille, il prend un énorme gourdin, il déchire tous ses enfants, il les chasse de son domaine, il colmate les brèches de ses murs, il dresse des écriteaux gigantesques qui intiment la peine de mort à quiconque violera sa clôture. Et il s'enferme chez lui. Et voilà, enfermé chez lui, se produisit un hiver comme jamais de mémoire d'homme on avait vu. Il tombait des montagnes de neige. Le vent ululait dans les combles, le gel caressait les fontaines, et le soir, les fantômes se déchaînaient dans les couloirs de fer. Et c'était décembre, et c'était janvier, et c'était février, et c'était mars, toujours le même éclat, il tombait des montagnes de neige, le gel caressait les fontaines, le vent ululait dans les combles, et le soir, les fantômes se promenaient dans les couloirs de fer. Le géant s'étonnait, et il s'étonnait davantage encore, quand jusqu'en août et jusqu'en septembre, enfin tout au cours de l'année, le même spectacle se présenta à son regard. Il tombe des montagnes de neige, le châle tarit les fontaines, le vent hurle dans les combles, et le soir les fantômes se déchaînent dans les couloirs déserts. Le géant, qui était lettré, consulta tous les grimoires gréco-latins de sa bibliothèque, et il y perdit à la fois son grec et son latin. Alors, aucun météorologiste ne pouvait lui faire comprendre comment, en plein mois d'août, il tombait des montagnes de neige, le gel tarissait les fontaines, le vent luisait dans les combles, et les fantômes se promenaient le soir dans les couloirs. Il renonça à comprendre, et c'est bien, car cet hiver dura 7 ans. Pendant 7 ans, il tomba des montagnes de neige, le gel parit les fontaines, le vent hurla dans les combles, et les fantômes se promenèrent le soir dans les couloirs déserts. Enfin, au bout de 7 ans, le géant entendit un chant d'oiseau. Comme il y avait 7 ans, il n'avait entendu un chant d'oiseau, il se précipita à la fenêtre et il regarda. Et voici, dans le parc, dans les arbres en fleurs, les enfants nichaient avec les oiseaux. Le géant regarda et il vit tout au bout du parc un arbre qui n'avait pas encore fleuri et un petit garçon qui étendait ses bras pour monter dans les branches mais qui était trop petit pour les atteindre. Alors il comprit. Il comprit que ce long hiver qui en finissait plus était la projection de l'immense égoïsme qui l'habitait. Alors toutes les glaces de son cœur se fondirent, une bondit toute nage inacquise qui voulait aussitôt se dépenser. Et sur qui se dépenser? Sinon sur ce petit garçon qui aspirait à monter dans les branches et qui était trop petit pour les atteindre. Alors, à grandes enjambées, le géant gagna le fond du parc. Ce que les enfants épouvantés dégringolèrent de leur perchoir, gagnèrent les brèches hospitalières pour fuir la colère du géant. Aussitôt, dans le parc, les arbres cessèrent de fleurir, l'arbre de verdir et les oiseaux de chanter. Mais le géant ne voit rien, ne voyait rien que le petit garçon qui l'avait atteint. Il l'atteignit en effet. Il le prit dans ses bras, le hissa dans l'arbre, et aussitôt l'arbre fleurit, l'herbe verdit, et l'oiseau chanta. ce que voyant les enfants qui guignaient à travers les brasses ce qui se passait, comprenant que le géant s'était apprivoisé, regagnèrent leur perchoir, et dans tout le parc, les arbres fleurirent, l'herbe verdit, les oiseaux chantaient. Quant au petit garçon hissé dans l'arbre par le géant, il lui sourit, il se jeta dans ses bras et il l'embrassa. Le géant, éperdu d'émotion, laissa couler ses larmes et il dit au petit garçon, désormais, ce parc sera à toi et à tes petits camarades, ce château sera à toi et à tes petits camarades, et ma joie sera votre joie. Je vous enseignerai 1000 astuces pour découvrir les secrets de la nature, et je serai toujours le compagnon de vos jeux. Depuis là, toute la vie du géant fut radicalement transformée, depuis que cette jeune bonté était née de son cœur et se dépensait sur tous ses enfants. Il entrait dans une ère de bonheur qui était totalement parfaite s'il y avait eu une petite ombre. Et la petite ombre, c'est que le petit garçon qu'il avait hissé dans les bras n'était jamais revenu. Et la vie passa, la vie, la compagnie des enfants. Et le géant, en effet, leur enseignait 1000 astuces pour découvrir les secrets de la nature. Et leur joie était sa joie. Plus finalement, il devint vieux. Pour s'associer à leur jeu. Ils se contentaient, assis dans un fauteuil, de se réjouir de leurs ébats. Et enfin, il devint si vieux qu'à peine pouvait-il encore se porter. Et on arriva à un hiver paisible où la neige recouvre le sol en attendant les promesses du printemps. Et c'était précisément la veille de Noël. Et dans cette veillée, le géant, ne pouvant dormir, pensait, revoyait toute sa vie et attendait l'aube quand tout d'un coup, au point du jour, il entendit un chant d'oiseau. Alors il eut un pressentiment. Il se leva, se traîna jusqu'à sa fenêtre. Il l'ouvrit, il regarda, et tout au fond du parc, sur l'arbre qui venait de fleurir, il vit un petit garçon. Alors son cœur battit, c'était lui, aucun doute. Il rassembla toutes ses forces, ouais. Il se traîna au bout du parc enneigé, et s'approchant du petit garçon, il vit qu'il était blessé, alors il entra dans une vive colère. Mais dis-moi qu'il est lâche, dis-moi qui t'a blessé, que je prenne ma grande épée pour tirer vengeance de cette lâcheté. Il ne savait pas que cette grande épée, il n'eut pas même la force de la soulever. C'est ce son cœur qui parlait de l'abondance de sa tendresse. Alors le petit garçon le regarda en souriant. Et il était effectivement blessé dans ses pieds, dans ses mains et dans son côté. Le petit garçon le regarda en souriant et lui dit, ce sont les blessures de l'amour. Il n'y a que l'amour qui puisse les guérir. Ce sont les blessures de l'amour et il n'y a que l'amour qui puisse les guérir. Tu te rappelles, il y a tant d'années, je suis venu ici, au pied de l'arbre. Tu m'as hissé dans les branches. Je me suis jeté dans tes bras, je t'ai donné un baiser, tu m'as donné ton parc, ton château. Et je sais que tu m'as donné ton cœur parce que tu n'as jamais cessé de m'attendre. Et moi non plus, je n'ai jamais cessé de t'attendre. Et je suis venu aujourd'hui parce que c'est Noël pour t'emmener avec moi dans le parc de l'éternelle joie et de l'éternelle jeunesse.